Excellent vendredi à tous et chacun. Bienvenue aux amateurs de sport édition du 24 mai. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en grande forme parce que nous avons pour vous question de bien débuter le week-end. Une émission fort chargée encore une fois. Vous savez, ce soir, il y a des choses fort importantes qui se passent. Entre autres, demi-finale à la Coupe Memorial. Les Huskies de Rouyn-Noranda qui affrontent le Storm de Guelph. Celui qui passe s'en va en finale faire face aux Moussets d'Halifax. Donc, évidemment, Stéphane Leroux sera avec nous pour nous en parler. Ce soir, à compter de 22h sur nos ondes, l'Impact de Montréal qui tentera de gagner face au LAFC à Los Angeles. Ça sera pas facile. C'est la première puissance de la MLS. Donc, est-ce possible de battre les invincibles LAFC? Vincent Destouches sera avec nous pour nous en parler. Eric Carlson en route vers le marché des joueurs autonomes? Oh que oui. Sur Twitter, ça semble assez clair. On en parlera avec Benoît Brunet. Nouvelle qu'on a appris en fin d'après-midi aujourd'hui. Samuel Girard, en patinage de vitesse courte piste, double champion olympique, prend sa retraite à l'âge de 22 ans seulement. On en parlera avec Philippe Quentin. On aura la chance d'avoir avec nous aussi Thomas Chabot, des Sénateurs d'Ottawa, qui évolue maintenant pour l'équipe canadienne lors des championnats mondiaux d'hockey junior. On lui demandait ce qu'il pense de son nouveau coach, DJ Smith. Est-ce qu'il a entendu des bonnes choses en direct du championnat mondial d'hockey junior? C'est la question qu'on lui poserait un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, le dossier des Alouettes de Montréal prend encore beaucoup de place. Notre collègue Jérémy Filosa est avec nous. Salut, Jérémy.
Salut.
Bon, Jérémy, écoute, aujourd'hui, en fait, hier, quand on s'est parlé, on s'est dit que ce qui pouvait achoper présentement entre le groupe de Vincent Goudzeau et la Ligue canadienne de football n'était pas nécessairement un problème financier. C'était pas une question d'argent. Sauf qu'il y a certains aspects financiers qui accroche du côté du groupe de Vincent Goudzeau. Il y a des choses qui titillent.
Ben, en fait, c'est pas nécessairement du côté de Vincent Goudzeau, mais c'est du côté des acheteurs potentiels en général, parce que j'ai fait beaucoup de recherches aujourd'hui. J'ai appelé à bien des gens bien connectés chez les Alouettes de Montréal pour me faire au moins raconter quels étaient les états financiers des Alouettes de Montréal. Ce que je peux expliquer, c'est que la semaine dernière, j'ai dit avec Mario que c'était pas impossible que celui qui achèterait les Alouettes de Montréal ait à défrayer un gros zéro, hein, pour mettre la main sur la franchise. Ben, ce que je peux confirmer aujourd'hui, c'est que c'est pas seulement que celui qui va se porter acquéreur va débourser un gros zéro, c'est que la Ligue va être obligée de dédommager ou de compenser le propriétaire qu'elle va choisir pour que cette acquisition-là puisse avoir lieu. Donc, c'est comme un peu au hockey, quand tu échanges un joueur pour te débarrasser de son montant, sa masse salariale, tu te dis, garde, prends le joueur, puis prends la valeur, puis envoie-moi une coupe de bâton, puis ça va être bien correct. Dans le cas de la Ligue canadienne, c'est un peu ça, parce que on a, selon les chiffres de la Ligue canadienne, une indication qu'on pourrait perdre entre 8 et 9 millions de dollars chez les Alouettes la saison qui s'en vient. Donc, dans le but d'éponger un peu ces pertes-là, ben, il va falloir négocier avec ces futurs propriétaires-là pour leur dire, ben, on va vous compenser d'une autre manière. Parce que sans quoi, il y a personne qui va se lancer dans cette aventure-là, sachant qu'à prime abord, ils vont déjà perdre 8 ou 9 millions de dollars dès la première année, là.
C'est sans compter que le chiffre d'affaires a été assez négatif au courant des 4 dernières saisons. On peut parler de pertes aux alentours de 40 millions de dollars, ce que tu nous disais hier, là.
Oui, écoute, en fait, là, c'est entre 40 et 50 millions de dollars de pertes au cours des 5 dernières années chez les Alouettes. Maintenant, je ne sais pas si la Ligue va dédommager Wet and All ou vice-versa. J'ai aucune idée. On sait que la transaction va se faire entre le nouveau propriétaire et le commissaire de la Ligue canadienne de football. On n'aura pas nécessairement, que ce soit Éric Lapointe ou Vincent Gouzeau ou n'importe qui d'autre, on n'aura pas à négocier avec M. Wet and All. La Ligue va s'occuper ensuite de ça, de dédommager Wet and All. Mais est-ce qu'il y aura un chèque d'écrit? Peut-être. C'est quoi le montant? On ne le sait pas. Mais clairement, on sait que du côté de la Ligue canadienne, ben, il va falloir procéder à cette transaction-là rapidement. Parce que si on dépasse la date, entre guillemets, du 1er juillet, ben c'est fort probablement la Ligue qui garde le club pour une autre année et c'est eux qui vont être obligés d'absorber ces pertes de 8 à 9 millions. Là.
OK, donc on comprend mieux pourquoi, malgré l'heure tardive, qu'il y a encore beaucoup de négociations parce qu'on voudrait, du côté de la Ligue canadienne, avoir des nouveaux propriétaires avant le début de la saison pour ne pas être obligés d'absorber les pertes à venir du côté des Alouettes.
Exact. Ben, ils vont être obligés d'en absorber une partie.
Une portion,
de quelle façon ils vont dédommager le nouveau propriétaire, je le sais pas. Mais si la transaction passe pas, ben, ça va être tout sur leurs épaules, malheureusement.
OK. autre question. Là, je regarde ça et je me pose la question, qu'est-ce qui coûte cher du côté des Alouettes, outre le payroll? Tu sais, tu as des joueurs à payer, tu as des employés. Ouais. Qu'est-ce qui coûte cher?
Ben, écoute, c'est sûr, oui, les joueurs, t'as aussi certains employés qui gagnent quand même de bons salaires chez les Alouettes de Montréal, mais t'as aussi les frais de location. Premièrement, tu dois louer le stade Percival Molson. Selon ce que j'ai pu obtenir comme information aujourd'hui, ça coûte environ 1,2 million de dollars louer ce stade-là. Pourquoi? 10 matchs, si on compte le match pré-saison, c'est énormément d'argent. Il y a plusieurs autres villes qui ont leur propre stade. Il y en a d'autres qui louent à des montants qui sont moins élevés que celui-là. 1,2 million de dollars, c'est beaucoup d'argent pour louer un stade pour 10 matchs. Maintenant, il y a peut-être des gens qui m'écoutent et qui disent « Ben écoute, l'Impact a besoin d'argent. Pourquoi ils vont pas jouer au stade Saputo? Ils pourraient payer un loyer, disons, la moitié de ça au stade Saputo. L'Impact serait content, ils ramasseraient de l'argent. Peut-être qu'ils peuvent ramasser aussi une portion de l'argent des concessions, je sais pas trop. Malheureusement, c'est pas possible. Je me suis informé. Le stade Saputo, la longueur du terrain, c'est 120 verges. Et pour un terrain de football de la Ligue canadienne, ça en prend 150. Donc, le stade Saputo, c'est pas une option. On le fait au BMO Field avec 140. Les zones début sont 15 verges au lieu d'être 20, comme c'est normalement réglementaire. Mais le stade Saputo ne serait pas une option parce que tout simplement, la surface de jeu n'est pas assez grande. Sans quoi, on aurait peut-être pu se donner la main puis dire, regarde, aide-moi puis moi, m'aider. Mm-hmm. Mais ça pourra pas fonctionner. Donc, va falloir essayer de négocier avec McGill pour voir si on pourra pas faire réduire cette facture. Le problème, c'est qu'on sait que les Alouettes sont pris là. Ils peuvent pas aller jouer nulle part d'autre. Ils peuvent pas aller au stade olympique, on oublie ça. Ils peuvent pas aller au stade Saputo non plus.
Donc, on comprend, perte anticipée, 8 à 9 millions de dollars. Les coûts de location, 1,2 million de dollars pour Loi McGill, 500 000 dollars pour le stade olympique. Avec tout ça, avec les pertes qu'il y a eu au courant des dernières années, d'un point de vue fiscal, comment ça se comporte, cette franchise des Alouettes?
Ben, je pense pas que fiscalement, c'est ça le problème, parce que t'as des pertes. Mais si tu fais pas tes devoirs comme faut, ben, moi, ce que j'entends, c'est que dans les dernières années, malheureusement, il y a des choses qui ont pas été déclarées de la façon dont ils auraient dû être déclarées. Et on se retrouve avec certains problèmes fiscaux, notamment avec Revenu Québec, qu'on doit régler avant que la transaction puisse avoir lieu. Ou du moins, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il prenne la responsabilité du fait que on a certaines difficultés fiscales avec Revenu Québec avant que le nouveau propriétaire arrive en place. Parce que lui, il voudra pas s'occuper de ce problème-là en plus. Il va vouloir arriver là, mettre ses pions en place et commencer à travailler sur son marketing, son équipe et tout cela. Mais les erreurs des propriétaires passés, je ne pense pas qu'on va vouloir s'en occuper, peu importe qui sera celui qui arrivera au fil d'arrivée en premier. Donc, ça, c'est une autre petite difficulté qu'il va falloir surpasser. Et juste pour compléter ce que tu as mentionné tout à l'heure, 500 000 $ de location pour le stade olympique pour les entraînements. Et en plus, tu as un groupe de joueurs qui sont pas nécessairement à 100% satisfaits de leur, entre guillemets, centre d'entraînement qui est le stade olympique, qui en fait n'en est pas un. On a entendu dire justement que Vincent Gouzeau avait peut-être l'intérêt de placer un centre d'entraînement sur la rive nord de Montréal. Ben, c'est peut-être de cela qu'il parlait, là, parce que lui, il regarde les chiffres, puis il doit se dire 500 000 $ pour pratiquer au stade olympique, puis en plus, ça a l'air que les gars sont pas contents. Ben, on va essayer de trouver d'autres choses, moins dispendieux, peut-être un peu plus loin, mais qui va faire l'affaire de tout le monde.
Là. Dis-moi, Jérémy, avec tout ça, là, avec ce qu'on a parlé, évidemment, hier, on s'est parlé du groupe de Vincent Gouzeau avec la Ligue canadienne de football. On a dit que ce qui faisait ralentir un peu la transaction, c'était pas nécessairement l'aspect financier, mais peut-être plus l'aspect organisationnel de tout ça.
Ouais.
Est-ce que le canal de communication est toujours là ou ça ralentit un peu entre le groupe de Vincent Gouzeau et la Ligue canadienne de football?
Ben, écoute, c'est un peu comme j'expliquais hier, là. Disons que c'est pas aussi fluide que c'était peut-être il y a une semaine. Et donc, les autres groupes sont revenus dans le portrait à cause de cet élément qui était sur la table dans la proposition de Vincent Gouzeau de la semaine dernière et qui ne l'est plus aujourd'hui. Pourquoi Vincent Gouzeau a fait volte-face sur cet élément-là, on ne le sait pas. Mais clairement, c'est quelque chose qui tient suffisamment le commissaire, qui tient suffisamment au commissaire pour que on reconsidère certaines choses. Ça ne veut pas dire que Vincent Gouzeau ne mettra pas la main sur les Alouettes. Moi, j'ai des confirmations que les propriétaires sont bien en accord avec l'arrivée de Vincent Gouzeau dans la Ligue canadienne de football comme propriétaire des Alouettes. Mais bon, il y a cet aspect important qui n'est plus sur la table et là, ils vont devoir décider s'ils sont capables de s'en passer ou pas. Là.
OK, parfait. Jérémy, tu as fait un excellent travail et là, un peu de repos ce soir. On t'écoute à compter de 22h okay. pour le duel de l'Impact. Merci, Jérémy.
Excellent.
Merci.
Salut.
Bye Maintenant, bye. Pour réagir, Bruno Eppel est avec nous. Salut, Bruno.
Salut.
Bon, ça va bien. Comment tu réagis à ce que tu entends du travail de Jérémy Filosa?
Ben, première des choses, je veux le commander pour son travail. Écoute, il fait tout un boulot de recherche en ce moment. Jérémy a l'air très, très bien au fait de ce qui se passe, plus que beaucoup de monde, en fait, plus que moi. Et c'était très instructif. Ma première réaction, c'est, regarde, comment on a fait pour se rendre là? Malheureusement, quand j'écoute ces chiffres-là que Jérémy sort, et quand même que ce serait la moitié des chiffres que Jérémy vient de sortir, c'est énorme comme perte pour les Alouettes dans les dernières années. Puis je me dis, comment on a fait du côté des Alouettes pour se rendre là alors qu'il y a des années et des années, on parlait d'un centre d'entraînement. Tu sais, j'écoute Jérémy parler d'un centre d'entraînement qui coûte 500 000 $ par année à l'équipe. Ils en ont eu sûrement dans les 15 dernières années des opportunités de faire l'acquisition d'un centre d'entraînement. Les Whitebarns auraient peut-être eu la chance d'investir et de faire eux-mêmes leur centre d'entraînement. Puis aujourd'hui, c'est peut-être eux qui loueraient pour 500 000 $ en ouais. plus d'avoir accès à un centre d'entraînement. Puis on parlerait déjà d'un déficit pas mal moins grand. Tu sais, c'est juste ça. Quand j'écoutais, je me disais, il y a sûrement des choses qu'on doit regretter du côté des Whitebarns de ne pas avoir bougé quand les Alouettes étaient populaires, quand on avait des opportunités de faire des acquisitions sur des terrains de la ville de Montréal. Juste à penser au centre Nutrilait, là, que Saputo a présentement. Je ne peux pas croire, moi, que les Alouettes, moi, dans mes années à moi ou un petit peu après, là, dans le temps de Mark Trussman, n'ont pas eu l'occasion de peut-être mettre la main sur un terrain comme celui-là, là, dans toutes ces années-là.
On regarde là ce que Jérémy disait, on parlait de pertes aux alentours de 40 millions de $ au cours des 4 dernières saisons, de pertes anticipées pour l'année à venir de 8,9 millions de $.
Oui.
J'ai l'impression, et corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que ça correspond un peu avec le départ de Jim Popp. J'ai l'impression que Jim Popp prenait beaucoup de place dans l'organisation et quand Jim Popp est parti, est-ce que tu as le feeling que le bateau est parti un peu à dérive?
Oui, ben tout est parti à dérive. Il y a Jim Popp, mais tu sais, c'est quand tu regardes, il y a eu le départ de Larry Smith aussi a fait mal il y a quelques années. Jim Popp, c'est clair que ça a fait mal. Bob Whitnall, qui il faut pas l'oublier, s'est éloigné des activités de l'équipe là lorsqu'il est devenu un peu plus âgé puis qu'il n'y avait plus la santé pour le faire. Ça a été pris par son fils. Fait que tout ça mis en place, on a eu des jeunes qui sont venus remplacer des vieux loups là. Il faut regarder ça, puis il y a eu l'apprentissage de ces gens-là qui sont arrivés, qui étaient un peu plus jeunes, qui avaient moins d'expérience, puis ça a sûrement pas aidé. Puis le départ de Jim Popp, c'est clair, là, c'était un bon GM, puis s'il y avait une force, et on l'a souvent sous-estimé là-dessus, mais il était très bon pour gérer un cap salarial. Mmh. Il était meilleur qu'on pense pour gérer aussi les finances des opérations football, selon ce que j'entends là, de mon côté à moi, et ce serait peut-être pas la force de Cave Street présentement.
Clairement pas. Clairement pas. Bruno, je te pose la question, t'entends la façon dont les Alouettes sont rendues aujourd'hui, ils ont passé au courant des dernières années et vers quoi ils s'en vont si jamais la vente n'a pas lieu. C'est quand même ton club de football, Bruno. Toi, comment tu réagis quand t'entends ça?
Ah, ben regarde, on a tous hâte de voir ce dossier être clos. Moi, je pense qu'on a... Tu sais, on en parle. Ça fait depuis le début de l'hiver là, qu'on en parle. Ça a sorti les premières rumeurs, c'était quoi, au mois de janvier, février, si je me rappelle bien. En tout cas, là, ça dure en longueur un peu trop. Moi, je veux qu'on fasse un choix et qu'on s'organise pour qu'un propriétaire accepte de prendre les rênes de cette équipe-là, un propriétaire crédible, que ce soit le groupe d'Éric Lapointe ou Gouzeau, pour moi, il faut que quelqu'un avec les reins solides prenne ça en charge et qu'on passe à un autre appel. Parce que là, on tourne en rond présentement. Et bandi, là, les gars sont en train de se préparer pour une saison. Et les entraîneurs sont en train de se préparer pour une saison avec un épée Damoclès au-dessus de la tête. C'est pas évident.
Est-ce que les joueurs sont touchés par ça, selon toi?
Ben, les joueurs, peut-être un peu moins que les entraîneurs, parce que tu sais, ce qu'on comprend, là, puis Guzzo, ce que Jérémy nous dit, ou ce qu'on a lu, en tout cas à certains endroits, c'est qu'il aurait déjà dit qu'il allait faire beaucoup de changements lors de son arrivée au niveau des opérations football. Donc, quand tu penses à beaucoup de changements, il n'y a pas tant de monde que ça dans les opérations football. Tu as Kavis Reed, tu as Mike Sherman, et Mike Sherman a son groupe d'entraîneurs à lui. Fait que c'est clair qu'au niveau des entraîneurs puis de tout ce qui est GM, c'est pas évident en ce moment, parce qu'on sait que lorsque le nouveau groupe va arriver, il va falloir les bonnes chances qu'on va passer dans le tordeur. Tu sais, ça serait surprenant qu'il n'y ait aucun changement. Il faut pas le groupe qui va arriver, le propriétaire, il va mettre son monde en place. Ça, c'est clair.
Et de vendre le club avant le début de la saison dans un laps de temps aussi restreint, d'un point de vue football, ouais, ça va changer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer?
Ben, je sais pas à quel point tu peux tout de suite là, tout chambarder. Là. Et moi, je suis pas propriétaire des Alouettes, je veux pas m'en acquérir, mais si je faisais l'acquisition des Alouettes avant le 1er juillet, j'aurais tendance à me retirer un peu du portrait, regarder comment ça roule le début de saison avant de tout de suite vider à baraque, parce que là, ça pourrait tourner au vinaigre pas à peu près là, si on se débarrasse de tout le monde. Tu sais, je sais pas. C'est un couteau à deux tranchants. De toute évidence, le nouveau groupe va vouloir mettre son monde, mais on peut pas non plus juste mettre tout le monde à la porte, parce que là, ça en prend des entraîneurs, puis ça en prend un GM pour gérer ça jusqu'à la fin de la saison. C'est pas évident. Ça aurait été mieux que ça se règle bien avant, évidemment.
Bruno, dis-moi en terminant, selon toi, quand on se reparlera du dossier de la vente des Alouettes dans 12 mois d'ici, dans 24 mois d'ici, est-ce que ça aurait été pour le mieux ce qui se passe présentement?
Ah ben, je pense qu'on peut pas arriver à pire. Tu sais, on a eu le fond du baril. Là. Il faut que le nouveau groupe, ce soit pour le mieux. Puis je pense que le fait que ce soit des intérêts québécois, veux pas, ça va tourner le regard des partisans, ça va tourner le regard des médias vers les Alouettes. Puis après ça, si on fait des bons moves, puis, tu sais, je comprends qu'on va engager une fesse francophone, on parle d'un GM francophone, d'un entraîneur-chef francophone. Moi, je me garde une réserve. Moi, je veux un bon GM, puis je veux un bon entraîneur-chef qui va nous faire gagner des matchs, parce que quand même que tout le monde parlerait français, là, si on finit la saison 2-16 l'an prochain, ça serait pas grand-chose que quelqu'un parle français.
Là. Non, tu vois, regarde, toi, tu parles français puis t'es bon en même temps, tu vois. Tu serais bon candidat, Bruno Eppel. Hey, je te souhaite un excellent week-end. Merci d'avoir été avec nous.
Salut, bye-bye tout le monde, bon week-end.
Merci, on s'arrête quelques instants. Le Canada demain affronte la République tchèque, championnat mondial de hockey junior, et on parle du nouveau coach des Sénateurs avec Thomas Chabot.